France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous, retrouvons la soprano italienne Renata Scotto dans la suite de l'émission que Mildred Clary lui avait consacrée sur France Musique en 1997. Renata Scotto nous faisait partager sa conception de l'art lyrique et comment elle avait pas à pas construit sa carrière. Une carrière que Renata Scotto a débutée à 18 ans sur la scène du théâtre de Savona, sa ville natale, comme elle le confiait à Mildred Clary.
Moi, une chose que j'aimais beaucoup de ma professeure est qu'elle m'a dit toujours ne pas chanter pour la première fois un rôle dans un grand théâtre. Avant tout de faire le début dans un petit théâtre avec pas de, de critiques très importantes, pas parler, seulement de essayer le rôle dans un théâtre qu'il... si on fait des erreurs, ça ne fait rien, ça pas grave. Mais s'il va à faire des erreurs à la Scala ou dans un grand théâtre, ça c'est très grave. Grave pour la personnalité, parce que ça pose des pressions de nerfs.
Pour la suite aussi,
oui.
Et vous avez chanté chez vous, à Savona, alors dans le théâtre Cabrera?
Cabrera, théâtre Gabriello Cabrera, c'est un très bel théâtre, joli, petit, il a comme 800 personnes. J'ai chanté la première fois que j'étais sur la scène, à 18 ans, j'ai chanté Traviata. Je me souviens très bien de cette soirée parce que toute la ville était là, tout.
La famille,
tous les amis de mon père, les amis de mon oncle, les amis de ma sœur, les amis de mon père était un policier de la ville,
police, oui.
La ville. Et quand tous les amis étaient au théâtre et il y avait deux, comment si dice, due correnti.
De clans.
Un, elle disait non, c'est pas possible, elle est très jeune, elle est pas bonne, elle peut pas être. Et l'autre disait ah, mais ça c'était, ce sera la prochaine grande stella. Alors il y avait beaucoup de discussions cette soirée-là. Mais moi j'étais très heureuse d'être sur la scène. Je me souviens rien. Je me souviens seulement que je pouvais mettre un costume. Je voulais un costume blanche. Et avec des camélias ici, je me souviens, et j'ai dit à ma tante, elle avait un très bel collier, et j'ai dit, s'il vous plaît, moi je voudrais avoir ce collier, elle m'a prêté.
Thank you.
Finale du premier acte de Traviata de Verdi, Renata Scotto et Luciano Pavarotti avec l'orchestre de Covent Garden dirigé par Carlo Felice Cilario, c'était en 1965.
Vous avez eu du mal à réunir les exigences, disons, vocales et le soin que vous deviez prendre de votre voix. Et le fait de jouer sur une scène, ça vous a créé quelques problèmes ou ça vous venait assez naturellement?
Non, pour moi, c'était toujours très intéressant, très fascinant de pouvoir faire de jouer.
Oui.
C'est ça que vous demandez.
Récitation.
Di recitare. De jouer. Oui. De jouer sur la scène, chanter. Moi, j'aime beaucoup. Je voulais toujours être une actrice qui chante. Mm-hmm. Je voulais toujours. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse beaucoup d'apprendre les mouvements, de pouvoir chanter, assis et après de faire de la scène et chanter, être une actrice. Io ho sempre pensato che
j'ai toujours pensé
bisogna rendere il carattere
qu'il fallait
crédible.
Que le personnage soit rendu crédible.
Sempre. Et pour renderlo crédible,
et pour ce faire, il faut parfois jouer sur scène d'une façon un peu étrange.
Vous aviez une idée très précise de ce que vous vouliez faire, de comment vous vouliez vous orienter, ou pas vraiment?
Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et à ce moment-là, j'avais déjà un agent qui était un très belle, très bonne personne de Milan qui avait un'agenzia théâtrale, mais il était un peu comme un père et il m'a protégé surtout. Il a compris que j'étais très jeune, que j'avais besoin de crescere.
Oui, de grandir, de mûrir, de développer.
Et il m'a fait chanter Nannetta in Falstaff avec Gobbi. Et j'étais à Lisbonne, Maria Callas était là et elle chantait Traviata. Et il a dit, tu restes là pour les répétitions et tu es la cover, non? Le double. Et Maria Callas, elle a chanté comme une ange, et moi j'étais comme ça, non? Et je pouvais apprendre ce que ça veut dire d'être sur la scène, une prima donna, une diva, mais pas pour moi-même. Et Callas était une diva, pas pour soi-même. Et Callas était une diva pour le public. Ça, c'est la grandeur de Callas. Peut-être on a une différente idée de Callas, parce qu'on pense à la vie publique, mais sur la scène, Callas jamais a chanté pour elle-même. Elle a toujours chanté sur le public, et moi j'ai appris d'elle. Et quand j'étais, on parle un peu avant, mais quand j'étais à Milan étudiant à la Scala,
Et j'ai chanté à la Scala, j'ai fait des disques à la Scala, et j'ai commencé avec le même professeur de la partiture que Callas avait. Et il m'a toujours dit, Callas reste ici de 4 à 6 heures étudiant. Et moi, je n'ai jamais oublié ça. Jamais, jamais oublié. Alors j'ai dit, ça, c'est ce que je veux faire.
Une vraie professionnelle.
Vraie profession. La profession d'être une artiste professionnelle. Parce que si l'artiste, c'est un peu vague, l'artiste crée, non? L'artiste crée, l'artiste è quello che è un po' pazzo.
L'artiste è celui qui est un peu fou.
Degli interpreti,
ma pas quand il s'agit d'interpréter.
È un mediatore.
Car l'interprète est un médiateur.
Crea qualche cosa che è già
il crée quelque
esistente.
Chose qui existe déjà,
quindi,
en quelque
l'artista
sorte.
L'artiste non può essere pazzo.
L'interprète ne peut pas être fou. C'est un professionnel.
È difficile dirlo, però l'artista è creatore sulla
qui
scena,
n'est que créateur sur la scène, qui doit se montrer totalement professionnel dans les préparatifs, ce que je ne cesse de répéter aux jeunes.
Préparazione e poi sulla scena create.
I soliti sospiri, foresti meglio, arrivati in città presso tuo zio, che si dice malato e grave.
Il suo mal non è niente appresso al mio, partirmi non possio, mille volte il tentai.
Ma signore, mi lascia erede un altro.
Ma che mi importa?
Morrei di fame e senza appoggio alcuno.
O di fame o d'amore, per me tutto.
Di quel sorgente e ti credi certo di ispirarmi affetto. Così ti parlo schietto e ti dico che in modo molto speri che capricciosa io sono e non va brava che mi tosto non muoia.
Perché mai?
Thank you. Thank you. vieni a dirmi in questo santo giorno.
Mascagni, Cavalleria Rusticana, Renata Scotto avec l'Orchestre National Philharmonique, dirigé par James Levine.
Vous avez commencé avec Bellini, avec le bel canto, comme on dit. Vous avez ensuite évolué vers le répertoire verdien et ensuite vers le répertoire veriste. Est-ce que ceci peut constituer des grandes étapes de votre vie ou ça a été quelque chose qui s'est fait assez vite, hein, finalement?
Non, sempre a tappe. Io penso che sempre nella carriera bisogna passo per passo.
Je pense qu'une carrière ne peut se faire qu'en procédant pas à pas, en cherchant toujours ce dont on est capable en plus.
Si on cherche de faire tout en même temps et tout trop vite, on fait rien. On fait rien, on n'a pas le temps d'absorber, d'essayer. Moi, je me souviens que j'ai commencé peut-être à changer un tout petit peu vers le répertoire dramatique. Chaque compositeur avait un rôle qui était un peu plus dramatique pour moi. Peut-être quand j'ai chanté Bellini, moi j'ai chanté tout Bellini. Non, j'ai pas chanté Bianca Fernando et j'ai pas chanté Beatrice di Tenda, mais le reste j'ai chanté. Alors, Amina était le premier parce que c'est le plus léger, le plus naturel, le plus simple, difficile, très difficile, mais le plus simple, on peut pas forcer la voix, on doit toujours chanter avec une technique très bien posé dans la voix. Mais après, j'ai chanté aussi Capuletti et Montecchi, c'est un peu comme Amina. Et après, j'ai essayé La Straniera. La Straniera, j'ai pensé que La Straniera était un peu plus vers dramatique, un tout petit peu. Je pensais que si je voulais chanter peut-être un jour Norma, ça, c'est le chemin qui me peut porter vers Norma. Et j'essayais, j'ai chanté Straniera. Et après, j'ai chanté Puritani. J'ai chanté Puritani, aussi Puritani est léger et dramatique. J'ai chanté tout ça, j'ai chanté Zaira, aussi c'est léger et dramatique. Et tout ça pour voir si je pouvais chanter Norma. Un jour, j'ai chanté Norma aussi. Et avec le rôle de Verdi aussi, j'ai chanté Rigoletto, Traviata, et après j'ai commencé à Lombardi. Lombardi était maestro Gavazzeni, qui l'a dit. Lombardi est très difficile pour un soprano dramatique, parce qu'il y a beaucoup de alta tessitura, re naturale, tutto su, beaucoup de coloratura, beaucoup de pianissimi legato, et peut-être le soprano dramatique, c'est un peu difficile, on ne peut pas chanter ça. Et comme il Gavazzeni a toujours dit que ma voix avait cette couleur-là, nécessaire, et avait la tessitura alta, comment on dit en français,
la tessiture haute, élevée,
élevée pour chanter. Et il a voulu que je chante Lombardi. Et ça, c'était le premier, avec Traviata, Rigoletto, Lombardi. C'était très bien pour moi parce que j'ai eu de drama, mais aussi léger. Aussi léger, avec de très longues phrases legato, pianissimo, et coloratura, drama. Après ça, il a dit, je pense que tu peux chanter Vespri siciliani, parce que Vespri siciliani est très dramatique, mais aussi très léger, avec beaucoup de coloratura, et aussi la tessitura très haute, et pianissimi, et tessitura tutta sostenuta, et un soprano dramatique, c'est un peu difficile. Et comme ça, j'ai chanté Vespri siciliani.
Oh.
Je me souviens que quand j'ai chanté des vers plus siciliani, Maestro Cavazzini, il a enseigné la partition directement. J'ai eu cette chance-là. Hein? Et après, j'ai chanté, j'ai essayé Otello. Et après, tout s'est arrivé, mais passo per passo, con un compositore, tutto insieme, no? Canti Vespri Siciliani e poi canti La Norma, no? Un compositore alla volta. Rigoletto, Traviata, Lombardi, Vespri Siciliani e Nabucco. Nabucco jamais en scène, seulement sur le disque, e Lady Macbeth. Macbeth, che c'était pour moi la plus grande soddisfazione. Mais voici, Macbeth, c'est aussi écrit pour un soprano. Verdi a toujours écrit pour soprano. Et le soprano doit, pour chanter Verdi, avoir trois octaves. E coloratura. E pianissimi, e legatissimi, e espressione, e parola, tutto. Si on comprend ce que Verdi veut, on peut chanter Verdi. Autrement, on ne chante pas. Mm-hmm. Mais moi, avec mes grands chefs d'orchestre, j'ai eu la chance, la grande chance d'avoir à ce moment-là Antonino Votto, Gianandrea Cavazzini, Carlo Maria Giulini et tous les grands chefs, aussi Karajan, tous les grands chefs qui m'ont dit ce que je pouvais faire. Et moi, je suivais.
Sei io, sei io, sei io.
Verdi, Macbeth, Renata Scotto avec l'Orchestre symphonique de Budapest, dirigé par Thomas Fulton. En 1960, Renata Scotto fait ses débuts en Amérique, à Chicago. 5 ans plus tard, elle débute au Met.
Pour moi, à ce moment-là, j'étais très italienne. Et je pensais que l'Italie avait le plus grand théâtre du monde, le plus important du monde. N'importe pas, les autres sont rien. Et je pensais que la Scala était la Scala et les autres sont rien. Alors, je suis partie pour l'Amérique. Oui, c'est très important. Oui, c'est important, mais pas comme la Scala. Alors, j'ai fait mon début au Met, au vieux Met, et tout, la pression m'a dit que c'était un très bel succès. Un très bel succès. J'ai chanté Butterfly, et à ce moment-là, en 65, la préférée Butterfly était Licia Albanese, qu'elle est devenue une amie de moi, un très grand ami de moi. Et elle était la première ad aller dans ma loge pour m'embrasser, pour me dire qu'elle est toujours... Oh oui, elle chante! Elle chante! Toujours! Je pense qu'elle a 80 et quelque chose, mais elle est une femme fantastique. J'adore Licia. J'adore Licia. Et elle est venue dans ma loge, elle a dit, ça c'est la Butterfly que moi j'adore. J'ai dit, mais vous êtes la plus grande Butterfly. Non. Tu. Alors j'ai chanté toujours beaucoup de fois Butterfly. Mais vous savez, Butterfly, quand je l'ai appris encore, après j'ai chanté Amina, Sonnambula, le rôle de Butterfly était toujours avec moi, parce que ma professeure a dit, Butterfly est pour toi. Parce que tu donnes à Butterfly l'expression qui est nécessaire pour le caractère. Mais pas changer la technique. Il y a 3 façons de chanter Butterfly. Il y a la façon très lyrique, dramatique, pour une figure qui est un peu alta, comme si dice?
Haute, oui.
Un peu haute, qui n'est pas la jeune, la petite fille, et avec une voix un peu grand, comme... Ça, c'est la façon dramatique. Et après, il y a la façon plus féminine, plus jolie, plus doux, que peut-être c'est plus voisin au caractère d'une japonaise, de présenter comme une jolie femme délicate, mais à fois très dramatique et très intérieure. Le drame intérieur d'une mère qui perd son enfant. De comprendre ça, mais... sans perdre la délicatesse de le visage et de la figure. Et il y a une autre façon, il y a la façon plus comment si dice, distaccata, un pochino più iratica, sì, più distante,
plus détachée,
cantata un pochino meno passionale, forse meno
moins passionnée,
ma non per questo meno bella.
C'est sans doute moins pucciniana, sì, mais non pour autant moins beau. C'est une manière plus élégante, disons.
Lyristica, vogliamo, un pochino più distaccata, io non posso dire altro.
Quindi plus détachée, je ne peux dire mieux.
Et difatti,
ce sont les 3 manières d'interpréter Butterfly. Et maintenant que je fais de la mise en scène, j'ai compris certaines choses. Par exemple, qu'à une soprano de grande taille, on ne peut pas demander de minauder comme peut le faire une petite femme. Alors nous devons adapter les indications de caractère aux caractéristiques de l'actrice.
Quindi Butterfly un po'. Et alors la mia maestra, mon professeur, a toujours dit tu dois avoir dans ton répertoire Butterfly, mais pour toi doit être plus délicat et intérieurement intense, oui. Dramatique.
chi serra palpitare te, sei mia.
Sì, per
lei. Vieni, vieni via dall'anima in pena, la nevosa paurosa. E non te sarai.
Cet extrait de l'acte 1 de Madame Butterfly, interprété par Renata Scotto, Carlo Bergonzi et l'orchestre de l'Opéra de Rome, dirigé par John Barbirolli, conclut le deuxième opus de cet entretien avec Renata Scotto que Mildred Clary avait recueilli pour France Musique en 1997. Nous retrouverons demain le troisième et dernier volet de cette émission. D'ici là, tout le programme, la réécoute et le podcast de cette archive sont à retrouver sur le site francemusique.fr ou sur l'application Radio France. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation avec la collaboration des documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.